Gros plan sur la spondylarthrite ankylosante, première partie, article de Julie Devilliers dans le Kiné Actualité du jeudi 8 septembre 2011. La spondylarthrite ankylosante SPA, connue aussi sous le nom de pelvis spondylite rhumatismale, est un rhumatisme inflammatoire douloureux. Elle se caractérise par des atteintes localisées au niveau de la colonne vertébrale et des articulations sacro-iliaques, pour sa forme à prédominance axiale et au niveau des membres, genoux, hanches, articulations des doigts et des orteils, enthèse, pour sa forme à prédominance périphérique. Elle apparaît souvent chez l'adulte jeune avec un début insidieux, une évolution souvent lente et progressive entrecoupée de rémissions qui rend le diagnostic difficile et long à établir de manière formelle. En 2008, la Haute Autorité de Santé, HAS, évaluait la prévalence de la SPA au minimum à 0,30% de la population générale française. Le risque de la SPA sur le plan articulaire est l'évolution possible vers un enraidissement progressif, voire une ankylose. L'ankylose est toutefois aujourd'hui un stade rarement atteint du fait d'une meilleure prise en charge de la maladie. Hormis les atteintes articulaires, le sujet peut également développer des complications cutanées, oculaires, cardiaques, intestinales, pulmonaires ou génitales. La SPA fait partie d'un ensemble de rhumatismes inflammatoires ayant des caractéristiques communes susceptibles de s'associer ou de se chevaucher, regroupées sur le terme de spondylarthropathie. Dérèglement du système immunitaire. Il n'y a pas actuellement d'étiologie clairement établie qui explique ce dérèglement du système immunitaire. Cette maladie auto-immune pourrait certainement être déclenchée en partie par des germes infectieux dont des résidus persisteraient de façon latente dans les cellules. Selon certaines hypothèses, ces résidus de peptides pourraient avoir une séquence proche ou identique à celle de leurs hôtes. Ils pourraient ainsi provoquer un dysfonctionnement du système immunitaire qui, secondairement à cette infection, s'attaquerait aux cellules de son propre organisme. Une prédisposition génétique est aussi définie comme un facteur favorisant le développement de cette affection. En effet, les études ont montré que la persistance de germes infectieux serait favorisée chez les personnes porteuses de l'antigène HLA-B27, protéine présente à la surface des globules blancs chez certaines personnes, prévalence de l'antigène évaluée à 90% chez les sujets porteurs de la SLA. Toutefois, la présence du HLA-B27 ne suffit pas à elle seule pour poser le diagnostic de la maladie, de même que cet antigène n'explique pas à lui seul toute la prédisposition génétique. Première manifestation. Les premières manifestations de la SPA sont souvent des douleurs rachidiennes banales, pouvant donner lieu à une prescription de kinésithérapie avec toutefois certaines particularités. Douleurs survenant en deuxième partie de nuit, qui ne se calment pas au repos, sensation de raideur au réveil qui dure au-delà de 30 minutes, existence de douleurs fessières, douleurs associées aux précédentes et localisées au niveau du bassin ou de la symphyse pubienne. Ces particularités, la répétition des cycles douloureux et leur pérennisation doivent éveiller l'attention du kinésithérapeute qui adressera alors le patient à son médecin traitant. D'autres manifestations associées peuvent alerter les professionnels de santé. Il peut s'agir de douleurs au niveau de certaines enthèses, douleurs localisées souvent situées au talon, épaules, région des genoux. Il peut s'agir également du gonflement d'un doigt ou d'un orteil, doigt ou orteil dit en saucisse, une sensation d'oppression thoracique nocturne ou une difficulté à l'inspiration profonde peuvent également être décrites. Le patient peut parallèlement présenter une inflammation de l'œil, uvéite antérieure aiguë, qui provoque rougeur et douleur dans l'œil. Examen clinique initial. En France, 5 à 7 années s'écouleraient en moyenne entre le début de la maladie et la pose de son diagnostic. La SPA débute généralement par une atteinte axiale progressive chez un patient en bon état général et jeune, 16 à 40 ans. Il est assez fréquent que le patient signale une ou plusieurs poussées antérieures de durée courte, de type lumbago fessalgie matinale, associée à une raideur. Plus rare, il existe dans environ 20% des cas un début de maladie initié par une atteinte périphérique. La maladie débute rarement après 40 ans. À l'interrogatoire, il sera recherché des lombalgies et douleurs de la charnière dorso-lombaire de type inflammatoire, avec réveil en seconde partie de nuit, raideur matinale, absence de soulagement au repos, mais amélioration des douleurs avec l'activité. Amélioration nette et rapide après la prise d'un traitement anti-inflammatoire non stéroïdien. Des douleurs peuvent également être décrites sur tous les segments vertébraux et thoraciques. Toujours à l'interrogatoire, il sera précisé des éventuels cas de SPA dans la famille et chez le patient, des antécédents d'arthrite réactionnelle, uvéite antérieure, de psoriasis ou d'entérocolopathie. À l'examen clinique, il sera recherché d'abord une limitation de mobilité rachidienne par différents indices, distance main-sol, indice de Schubert, distance occiput mur, etc. Une dysharmonie des courbures rachidiennes est notifiée et il est possible de mesurer l'index d'ampliation thoracique. Au niveau sacro-iliaque, le praticien recherche des signes inflammatoires unis, bilatéraux ou à bascule avec parfois des douleurs irradiantes dans la fesse. Cette inflammation est mise en évidence par la reproduction des douleurs, par mobilisation des articulations sacro-iliaques ou par pression directe. Il sera recherché des enthésites, en particulier au niveau des insertions des tendons quadricipitaux, patellaires, d'Achille et de l'aponévrose plantaire. Celles-ci sont caractérisées par la présence de douleurs à la pression et parfois par une tuméfaction des insertions. Enfin, le praticien sera attentif aux douleurs, limitation au niveau des grosses articulations périphériques, coxo-fémorales, genoux, au niveau d'un doigt ou d'un orteil et enfin aux manifestations extra-rhumatismales non développées ici. L'association de signes rachidiens durables associés à une inflammation des sacro-iliaques bilatérales chez un sujet jeune est assez évocatrice, surtout si les symptômes évoluent par poussée. Aide complémentaire au diagnostic. Une prise de sang est faite en première intention à la recherche d'un syndrome inflammatoire et de l'antigène HLA-B27. Un cliché radiographique est ensuite indiqué pour les zones lombaires, dorso-lombaires, sacro-iliaques et coxo-fémorales. En cas de douleur au talon, des calcifications peuvent être recherchées au niveau des enthèses. À noter qu'une sacro-iliaque est visible, qu'une sacro-ilite, pardon, est visible à la radiographie après 5 à 7 ans seulement. Les radiographies sont souvent normales au stade initial de la maladie. Dans les cas difficiles, un scanner ou une scintigraphie osseuse permet d'objectiver des lésions précoces vertébrales ou sacro-iliaques. Les diagnostics différentiels tels que la polyarthrite rhumatoïde, lombalgie de type inflammatoire, sacro-ilite unie ou bilatérale, ossification intervertébrale, autre spondylarthropathie, rhumatisme psoriasique, entérocolopathie inflammatoire chronique, etc. sont à écarter. Tableau clinique variable. Il faut distinguer les atteintes à prédominance axiale et celles à prédominance périphérique. Les premières causent des lésions principalement localisées au niveau de la colonne vertébrale à n'importe quel étage. Des articulations sacro-iliaques et de la paroi thoracique antérieure. L'inflammation du rachis siège au niveau des ligaments et des articulations intervertébrales. Les atteintes périphériques peuvent toucher quant à elles à différents degrés, toutes les articulations des membres supérieurs et ou inférieurs. Elles engendrent une inflammation de la synoviale. Dans ce type d'atteinte sont observées également des enthésopathies, souvent au niveau du talon. D'un malade à l'autre, le tableau clinique est très variable. L'atteinte inflammatoire évolue souvent par poussée, mais diminue généralement de façon considérable, voire complète, au bout de 15 ans d'évolution. Les atteintes structurales ostéo-articulaires pour les formes axiales tendent vers un enraidissement progressif au niveau du rachis par ossification des ligaments et des articulations intervertébrales, avec une perte de la lordose lombaire, une accentuation de la kyphose dorsale, rattrapée au niveau cervical haut par une hyperlordose et une antéprojection de la tête. Cet enraidissement, dans les cas les plus graves, peut aboutir à une ankylose de l'ensemble de la colonne vertébrale, aspect de colonne bambou, ou des autres articulations atteintes dans une position normale ou anormale, attitude vicieuse. Une fragilisation des os peut aussi intervenir au cours de la maladie et causer des fractures au niveau des vertèbres. Au niveau des sacroiliacs, la maladie évolue également vers une ankylose dont la gêne est cependant limitée et qui permet même parfois la disparition des douleurs à ce niveau. Pour les formes périphériques, les complications à craindre sont des lésions cartilagineuses et des attitudes vicieuses. Les atteintes des entèches génèrent des douleurs qui peuvent être persistantes mais ne causent jamais de rupture tendineuse. Traitement. Le traitement médical comporte deux axes, un traitement symptomatique à base d'antalgiques, d'INS et, dans certains cas, de corticoïdes. Un traitement de fond mis en place et comportant, selon les cas, du méthotrexate, de la sulfasalazine, salazine ou une nouvelle classe médicamenteuse, les anti-TNF-alpha. Le suivi médical est réalisé par un rhumatologue. Les traitements physiques sont complémentaires au traitement médical et ne s'y substituent pas. Ils sont cependant aussi importants et font intervenir des techniques de kinésithérapie, d'appareillage, de podologie et d'ergothérapie. La rééducation est recommandée à tous les stades de la maladie et s'adapte à l'état clinique du patient. Des appareillages de repos pour diminuer la douleur et prévenir ou diriger les déformations peuvent être indiqués. La chirurgie est envisagée dans certaines complications sévères. Les formes graves et évolutives de la maladie sont prises en charge par la Sécurité sociale au titre de l'ALD numéro 27. L'éducation thérapeutique est vivement recommandée par la HAS qui juge plus bénéfique qu'elle soit réalisée simultanément par plusieurs professionnels de santé différents. Ainsi, la difficulté à poser un diagnostic de la SPA, les premières années de son apparition, laisse de nombreux patients démunis avec des douleurs inexpliquées. Les kinésithérapeutes, amenés à prendre en charge ces patients à un stade précoce, souvent avant l'établissement du diagnostic, doivent être vigilants aux signes évocateurs de la maladie et adresser au médecin référent un bilan diagnostique argumentant leurs doutes. Nota bene, dans le kiné actualité numéro 1247, la deuxième partie de cet article traitera de la prise en charge kinésithérapique de la spondylarthrite ankylosante à suivre donc.